Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
J'ai rêvé que je m'arrachais les dents une à une et que je les rangeais dans ma poche. Au réveil, j'ai mis ma main dans ma bouche et j'ai mordu. Elles étaient toujours là.
Dans ces romans pour adolescents, ce sont surtout les adultes qui sont faillibles. Ma mère passe pas mal de temps à la cave en ce moment, surtout la nuit. Diplômée du master de création littéraire du Havre, la bruxelloise Aileen Manchot, 27 ans, montre les crocs d'une malheureuse ogresse, titre de son second roman publié cet hiver aux éditions Sarbacane. Incapable de réfréner ses pulsions carnivores, cette infirmière de la Croix-Rouge a-t-elle réellement englouti sa vieille voisine, se demande dès le début du roman, qui est aussi le début de la fin, F-A-I-M, sa fille, Hippolyte, 16 ans, qui essaye de gérer, tout en étant elle-même dépassée par un amour dévorant pour son meilleur ami, dont elle est naturellement mordue. De passage ce dimanche dans les cuisines de Radio Nova, la romancière belge détaille aujourd'hui son goût pour ce royaume plutôt florissant de l'édition, la littérature young adult. Tout en s'épanchant sur deux de ses autrices favorites, Zadie Smith et ses sourires de loup, Meg Rozoff pour Maintenant, c'est ma vie. Miam miam. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez tous les dimanches de 12h à 13h. Bonjour, Aileen Manchot.
Salut, Richard.
Quelle est l'origine, le coup de fourchette initial de ce roman Ogresse, de cette histoire d'adolescente bruxelloise déboussolée par, notamment, la découverte du cannibalisme de sa propre mère? Savez-vous seulement si votre maman a prévu de manger des légumes à midi?
Je sais pas ce qu'elle a mangé ce midi. C'est une bonne question, je lui demanderai. Ma mère n'a jamais mangé d'être humain. Je voudrais préfacer l'interview par cette précision, parce que sinon elle va m'en vouloir. Ma mère a assez peu à voir avec la mère du roman, parce que la mère du roman est forcément une vision déformée de déjà ma mère quand j'étais adolescente, qui est très différente de ma mère actuellement, et puis de ma vision, qui est forcément pas la vérité. Le roman est sincère, mais il est pas vrai. Donc voilà, c'est important que les gens sachent ça. Le coup de fourchette initial, ça faisait longtemps que j'essayais d'écrire une histoire sur une fille dans une maison qui était pas bonne pour elle, enfin qui était dangereuse, et dont elle pouvait pas sortir. Alors j'étais pas sûre pourquoi elle pouvait pas sortir, donc j'avais des histoires où il y avait une forêt qui poussait dans la maison, et la maison devenait de plus en plus grande à l'intérieur. Et puis j'avais une histoire où une mère se transformait lentement en insecte, et je me suis rendu compte que ça avait déjà été fait.
Par certains, attendez, Franz Kafka, oui.
Et puis je suis tombée, j'avais envie de ce... Je suis tombée là-dessus sur le personnage de l'ogresse, cette idée qu'on sait pas trop ce qui se passe, mais on devine et on suit cette fille qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre et qui finit par être obligée de regarder les choses en face. Dans cette maison en bordure de forêt, qui est en fait la maison où moi j'ai grandi à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, contrairement à Paris, c'est possible d'habiter en ville, en bordure de forêt. Et voilà, j'ai passé un été où je suis retournée à cet endroit-là, chez ma cousine. Je gardais son chat, donc ma cousine habite au même endroit, en bordure de la forêt. Et je me suis beaucoup baladée dans la forêt. Ça m'a... De revoir ces endroits-là d'enfant avec mes yeux d'adulte, ça m'a donné envie. Enfin, ça a beaucoup nourri ce roman, quoi. Parce que je me suis rendu compte du côté dramatique de la chose, quoi, du côté conte de fées.
Comment surgit la question du cannibalisme dans votre esprit?
C'est pas tant le cannibalisme qui est important pour moi, c'est le fait de parler de manger, de parler de nourriture et de ce qu'on donne à manger aux gens et de ce qu'on reçoit à manger, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous dévore. J'ai beaucoup de sentiments sur la nourriture et l'interaction de la nourriture avec la famille, sur la manière dont on s'aime en mangeant et dont on peut blesser quelqu'un en refusant de manger. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup nourrir les gens. Enfin, et je suis très réflexive là-dessus, quoi. Je me demande ce qui me pousse à faire ça. C'était déjà quelque chose qui était pas mal présent dans mon précédent roman, La Dernière Marée, où il y avait aussi beaucoup de rapports à la nourriture, avec un père qui voulait absolument nourrir sa fille, nourrir sa femme. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'aille là-dedans, quoi. Je peux construire tout un roman là-dessus, et c'est quelque chose que j'ai en moi et que je peux aller chercher assez. Enfin, qui remonte à la surface assez naturellement.
Est-ce que vous avez quand même fait quelques recherches sur la notion pas si anodine du cannibalisme ?
Non, vraiment pas, parce que, enfin, assez peu, parce que simplement pour moi c'est pas un roman sur le cannibalisme, c'est vraiment le cannibalisme, s'il est là, il est symbolique, quoi. C'est même si je voulais que ça fasse vraiment peur, je voulais qu'on ait vraiment un sursaut, enfin que ça soit pas juste. Pour moi, c'est un roman de réalisme magique, et un des défauts du réalisme magique, parfois, c'est que les personnages ne sont pas du tout surpris par ce qui arrive.
Définissez le réalisme magique pour ceux qui ne connaissent pas cette école, notamment représentée en Amérique du Sud.
Quelle colle. Non, mais donc pour moi, c'est un roman qui est écrit avec tous les codes du réalisme, mais dans lequel des choses fantastiques arrivent. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas forcément surpris, quoi, qu'il y ait une sorcière qui habite dans le quartier. Et moi, je voulais qu'il y ait vraiment un aspect horrifique, quoi. Et donc, pour ça, il faut que ça soit vraiment du fantastique, dans le sens où c'est pas censé arriver. Et quand on voit que ça arrive, c'est terrible. Ça fait flipper, ouais. Je voulais absolument ça. Enfin, le cannibalisme, ça a pas vraiment d'importance pour moi, quoi. Ce qui était important pour moi, c'est d'avoir ce réseau de métaphores filées autour de la viande, autour de l'amour qui passe par le sang, qui passe par le cœur, et le cœur qui est un vrai organe qu'on peut manger, et voilà.
Est-ce que ça existe des cas de pulsion si forte que les gens se sautent dessus pour se dévorer ?
Je sais pas, j'espère que pas. Et si jamais ça existe, vous n'êtes pas obligé de venir m'en parler. Enfin, j'ai pas besoin. Si vous avez déjà ressenti ça, c'est pas la peine de m'envoyer un message. Tant mieux pour vous. Mais...
Il y a une idée que j'aime bien dans Ogresse, et je vais essayer de l'évoquer sans trop dévoiler l'intrigue. C'est l'idée que quelqu'un qui n'attend plus rien de la vie, que la mort a oublié sur le bord de la route, et que cette personne pourrait se laisser manger comme une sorte d'ultime don.
Oui, J'ai entendu récemment parler de gens en Angleterre qui ramassent les animaux écrasés sur la route et qui les mangent. Et c'est vu comme une sorte de régime carné éthique, quoi. C'est vu comme ça. Et je trouvais ça assez drôle. C'est vrai que je m'étais posé la question de est-ce qu'on doit être végétarien éthiquement ? Moi, je mange toujours de la viande, hein, mais c'est une question que je me pose. Et dans quel cas est-ce qu'on pourrait manger de manière éthique des animaux, quoi. Par exemple, est-ce qu'on peut manger un cheval qui est mort de vieillesse, quoi, et qui a été bien traité toute sa vie ? Et je me demandais pourquoi c'était pas ça qu'on faisait, quoi. Et donc apparemment il y a des gens qui font ça, donc qui mangent du roadkill, quoi, donc des morts, morts de la route.
Idée que vous étendez au règne humain.
je l'ai écrit avant d'apprendre que ça existait. La question, c'était que j'avais besoin de garder une ambiguïté, en fait. On sait pas si c'est vrai, cette histoire. On sait pas. La victime, on la voit jamais directement. Donc.
Et c'est mieux comme ça, d'ailleurs.
Et c'est mieux comme ça, bien sûr, parce que du coup, ça permet de maintenir l'ambiguïté de bout en bout. Et à la fin, la question de la culpabilité, elle est toujours pas établie, en fait. De la responsabilité, elle est toujours pas établie. Et c'est ça qui est si dur, en fait, c'est d'être maintenu dans cet entre-deux, d'avoir cette fille, H, qui aime sa mère.
H comme Hippolyte.
H comme Hippolyte, qui aime sa mère. Mais qui sait plus, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire face à quelque chose qu'on soupçonne mais qui n'est jamais confirmé.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
J'ai dans l'œsophage un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Disais petite tête, ôte-toi de la cmimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes, et le moins malin peut crever de faim, soldat ou artiste, on est tous des tristes cirés malheureux qui manque d'estomac. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux. La bouffée des yeux, mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam.
Miam.
Mambo Miam Miam, déhanché pour anthropophage, tiré du deuxième album de Serge Gainsbourg, sans titre, c'est juste marqué numéro 2, avec les extraordinaires musiciens d'Alain Goraguer et son orchestre, c'était en 1959. Je suis toujours avec l'écrivaine belge Aileen Manchot pour parler de son roman pour adolescents intitulé Ogresse. En parallèle de cette inquiétante et possible habitude maternelle, votre héroïne, Hippolyte, fait son apprentissage amoureux avec son meilleur ami d'enfance, Couz, et les névroses alimentaires de la mère finissent par déteindre un peu sur la jeune fille. Je voudrais enfoncer mes mains dans sa chair, juste sous son plexus solaire, écarter ses côtes et me blottir à l'intérieur de sa cage thoracique.
Ouais, parce que ce qui est terrible dans l'amour, c'est qu'on peut être aussi proche qu'on veut de quelqu'un, on ne sera jamais à l'intérieur.
Enfin, mais c'est vrai. Il nous arrive d'être à l'intérieur quand on est amoureux.
Il nous arrive d'être à l'intérieur, mais pas vraiment à l'intérieur. Enfin, on sera jamais un, quoi. On sera jamais une.
Et le désir de fusion sera jamais c'est totalement ça, voilà. Satisfait.
Et donc il y a cette idée de je serai jamais à l'intérieur de ta tête, à l'intérieur de ton corps. J'aurai jamais les sensations que toi tu as. Et c'est terrible, c'est tragique de se dire qu'on peut aimer quelqu'un autant qu'on veut. On est bloqué dans son propre corps.
Je vois plutôt ça comme une bonne nouvelle, mais...
Non, bien sûr, moi aussi, mais il peut y avoir une frustration dans cette impossibilité physique d'arriver à vraiment saisir l'autre, à vraiment posséder l'autre. Et je pense que c'est une frustration qu'on apprend à l'adolescence.
Aileen Manchot, dans votre roman Ogresse, il y a une scène de sexe très réussie. Et
merci.
Si ça vous va, je t'en prie. Et si ça vous va, j'aimerais vous entendre la lire presque en intégralité.
Ouais, ok, très bien.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Je voulais qu'il ait envie de moi. Moi, j'avais envie de lui. En poussant la porte de ma chambre, je tremblais un peu. C'était trop de sentir tout ça, j'avais honte. C'était beaucoup trop. J'avais honte de le vouloir autant, de lui imposer ça, de le salir avec l'énormité de mon désir. On est resté à se regarder sans bouger sous l'éclairage trop brillant du luminaire de ma chambre. J'avais envie de pleurer, mais ça aurait été la pire chose à faire. J'aurais pu l'embrasser, mais maintenant qu'on était seul et qu'on ne risquait pas d'être surpris, j'avais peur de le faire. Je me suis assise sur le lit. Lui est resté debout, au centre de la pièce, comme un idiot. Je nous trouvais nuls, ça aurait dû être plus simple. Le sexe, c'est pas comme on se l'imagine. Ou en tout cas, ce n'est pas comme moi je l'imaginais. Je pensais que ce serait plus facile déjà, d'un point de vue technique. Après tout, on est fait pour ça, non ? Je croyais que son pénis glisserait dans mon vagin comme un piston dans une gaine bien huilée. J'aurais jamais imaginé que ce serait si compliqué de le faire rentrer. Ça faisait mal et je me raidissais. Il s'arrêtait à chacun de mes tressaillements. Il bredouillait « Ça va ?» et « Tu es sûr ?» et « Ça fait mal ?» et « On s'arrête quand tu veux. » Mais je voulais qu'il se taise et qu'il continue. Je voulais qu'il entre jusqu'au bout afin d'être totalement sûr de ne vraiment plus être vierge. J'ai pris ses fesses dans mes mains et je l'ai attiré à moi. Il s'est enfoncé. Avant de le faire, je pensais qu'on atteignait automatiquement un autre état de conscience, comme quand on dort ou qu'on s'évanouit. Mais non. Je restais parfaitement consciente de la respiration de Kouz et du fait que les os de ses hanches connaissaient les miens. Il est beaucoup plus grand que moi, alors je ne voyais pas son expression, juste son épaule. J'ai eu à nouveau ce sentiment de trop-plein en me concentrant sur sa peau, là où son épaule devenait son cou. J'avais envie de mordre, fort, jusqu'au sang. J'ai embrassé sa clavicule à la place. Il a gémi un moment, et puis c'était fini.
Nova Book Box, particulièrement élémentaire.
C'est une scène réussie parce qu'elle a l'air vraie, enfin vous restituez... réellement les incertitudes et les à peu près de ce genre de confrontation. Mais la scène est réussie aussi parce qu'elle est immédiatement suivie par une rupture de frein. Selon la terminologie médicale, vous avez d'ailleurs consulté, vous le dites à la fin, un fringant urologue sur la question. À ce moment du livre, le sang jaillit comme une fontaine. Est-ce que l'intention, comme je le devine, c'était justement de prendre immédiatement le contre-pied de ce passage obligé dans les romances adolescentes, la scène de la première fois, avec un élément limite burlesque. Vous dites que l'héroïne roule hors du lit pour ne pas se faire arroser, mais que cet élément coule naturellement dans le thème du roman.
Dans le thème de la dévoration. Oui,
c'était. Et du sang aussi.
Oui, c'est ça.
C'est un motif qui revient très souvent dans le livre.
Je suis assez fière de ça. Si je peux le dire moi-même, parce que dans les romans ados, ce que je remarque souvent, c'est que quand on a une scène de première fois qui est effectivement, comme tu le dis, quelque chose qui revient beaucoup,
un stéréotype motif, quasiment, une scène, un passage obligé.
Un passage obligé, exactement. Souvent, le roman ne parle que de ça, donc de la découverte de la sexualité, donc on a juste la première fois et c'est important, hein, des romans qui parlent de la première fois. Ou alors, j'ai l'impression que l'intrigue s'arrête. On s'arrête le temps que ces deux gentils adolescents puissent faire leur première fois. Et il se passe un peu toujours les mêmes choses. Quoi. Le garçon n'arrive pas à bander, ou on a un peu peur au début, mais comme on arrive à communiquer, bah c'est bien, on finit par y arriver. Et c'est important la communication, les enfants. Bon, très bien. C'est vrai, c'est important la communication. Mais pour moi, le sexe fait partie de la vie, donc il n'arrête pas la vie, et par contre il est très important. Et donc je voulais que dans mon intrigue, le sexe fasse partie de l'intrigue, quoi. Que ça soit pas juste greffé par-dessus, que ça soit vraiment un rebondissement qui serve à l'intrigue. Et en plus, je pouvais pas résister à cette envie de faire saigner le garçon plutôt que la fille, de retourner un peu la chose. Et puis une fois qu'il y a du sang, et forcément il y a plein de sang dans ce roman, mais une fois qu'il y a du sang, bah forcément ça coule jusqu'à l'ogresse, quoi, forcément. Et donc je suis assez contente de ça.
Je le précise, ça va saigner jusqu'à l'ogresse, car en fait les draps, la tête d'oreiller va être imbibée, et ce qui sera remarqué par le personnage de la mère qui est avide de ce sang.
Avide à ce moment-là de sang, oui. Je ne m'arrête pas à la première fois, donc les deux adolescents continuent à avoir une expérience sexuelle, et les fois suivantes c'est un peu mieux, et même s'ils ont eu peur au début. Et je trouve ça important aussi de montrer dans la continuité, quoi, qu'il n'y a pas un seul moment magique de communion des esprits. Au contraire.
Ou un seul moment raté.
Ou un seul moment raté, c'est ça. Au contraire, bah, on continue. Dans mon expérience, quand on commence, on continue, quoi. On a du mal à s'arrêter. Et aussi, on découvre petit à petit, quoi. Je crois que c'est Maya Mazoret qui disait ça dans...
La journaliste spécialisée dans les questions de sexologie.
C'est ça, qui disait que le sexe était aussi comme une compétence à acquérir, quoi. Et j'avais envie de montrer ça aussi.
La maison d'édition qui publie ce roman, qui s'appelle Sarbacane, a pris l'habitude de demander à ses auteurs de livrer une playlist musicale liée à l'histoire ou au temps de l'écriture. Et dans votre playlist, il y a cette adorable toute petite chanson de l'actrice et musicienne française Soko, Why Don't You Hit Me Now You Can, qui date de 2012. On l'écoute. Est-ce qu'avant de l'entendre, est-ce que vous avez, vous voulez nous en dire un mot avant?
Non, j'adore cette chanson.
On l'écoute. Morceau qui vous sera proposé juste après une courte page de publicité.
Why don't you hit me now, you can? It would be better than to stand. The look you give me that makes me feel like I don't belong here. And you want some fresh meat, so why don't you bite? Either way, you'll hurt me physically and mentally. Take a picture of me in your head when I'm dead, 'cause you won't forget about me. I will scream in your dreams. Don't you eat me now, you can. Eat me now. Eat me now. Eat me.
Nova Book Box, l'insoutenable légèreté de lire.
Je suis toujours avec la romancière belge Hélène Manchot. En lisant votre second roman, Ogresse, tout récemment publié, j'ai très souvent pensé, et je crois que je ne suis pas le seul, au remarquable premier long-métrage de la française Julia Ducournau, intitulé Grave, sorti en 2017, un film d'horreur centré sur une étudiante vétérinaire qui se découvre elle-même des pulsions cannibales de plus en plus incontrôlables qui vont se mêler avec une certaine initiation sexuelle. Ce film et Ogresse ont aussi en commun un certain fétichisme sanguin à renfort de sang chaud dans des poches en plastique. Et ce sont pour moi d'ailleurs les scènes les plus réussies de votre roman, les scènes organiques. Est-ce que vous avez vu ce film et si oui, a-t-il eu une quelconque influence sur votre écriture ?
Oui, j'ai vu ce film parce que je me souviens avoir eu l'idée donc d'Ogresse et en avoir parlé, avoir eu l'idée notamment de la scène de la première fois suivie de la débâcle sanglante qui suit cette scène. C'est le premier enchaînement de scènes qui m'est venu et je me souviens en avoir parlé à des amis à moi. Et Grave venait de sortir. Et donc un ami m'a dit, mais t'as vu ce film ? Je sais plus comment il s'appelle, c'est un seul mot, mais c'est une affiche avec une fille qui a du sang qui coule de la bouche. Et je me suis dit, bon, j'espère que c'est pas trop proche. Et donc, je suis allée voir le film que j'ai trouvé très bon. Et en fait, l'autre point commun, c'est qu'il se passe tous les jours en Belgique aussi. Ça, bon, je pense que ça n'a rien à voir, qu'on n'est pas spécialement cannibale en Belgique. Cannibaux, au pluriel.
Cannibals.
Cannibals. J'ai beaucoup aimé ce film, notamment parce que je trouve que lui aussi mélange très bien, dans ce cas-ci, du coup, l'ambiance estudiantine du bizutage, du baptême, comme on l'appelle en Belgique, avec la progression dans l'horreur qui arrive à l'héroïne. Et donc l'héroïne, c'est une étudiante qui arrive sur le campus et qui découvre un peu le campus. Et c'est vrai que cette période-là de la vie est elle aussi terrifiante en soi. Donc c'est normal qu'on en fasse un film d'horreur.
Eileen, ces dernières années, vous avez aussi écrit des nouvelles en écrivant comme vous pensiez qu'il fallait écrire en tant qu'adulte. Mais dites-vous, c'était très mauvais. Et les choses, votre art d'autrice s'est mis en place quand vous avez accepté d'écrire à destination de lecteurs adolescents. Vous classez vous-même vos deux romans, Ogresse et le précédent, La Dernière Marée, dans la catégorie Young Adult, c'est-à-dire des fictions à destination des 15-25 ans. Quelles sont pour vous les frontières de ce genre littéraire? Qu'est-ce qui caractérise un roman pour jeunes adultes et qu'est-ce qui le différencie d'un roman à destination d'un ou d'une trentenaire dans les sujets et dans l'écriture?
Ouais, c'est vraiment la question à plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que c'est très compliqué et il n'y a pas une seule réponse. La chose à laquelle je pense beaucoup ces derniers temps, parce que je commence à m'en éloigner, c'est que dans un roman ado, on ne peut pas vraiment écrire... sur les étapes de la vie. On peut écrire sur une étape de la vie, mais on ne peut pas suivre quelqu'un toute sa vie. Et de plus en plus, je lis des romans qui sont des romans familiaux ou des sortes de sagas épiques où on suit plusieurs générations ou alors une seule personne à plusieurs époques de sa vie. Et je trouve ça très fort aussi de suivre tout un individu sur toute sa vie, sur la manière dont ce qu'il a pu vivre, même trois générations avant, on va encore avoir une influence sur lui. Et donc comme Sourire de loup de Zadie Smith que j'ai apporté, qui...
Sourire de loup.
Sourire de loup.
Oui, de l'anglaise Zadie Smith qui est sortie
ouais.
En 2000.
Que je viens de finir, que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Et donc ça parle de, en très gros de la...
De l'histoire de deux copains, un anglais et un bangladais. L'histoire est étalée sur une centaine d'années. On suit leur joie et leur peine dans une Angleterre multiculturelle.
Tout à fait.
Résumé à gros traits.
Mais donc thématiquement, ça parle en fait de la manière dont la colonisation des Indiens et des Jamaïcains par les Anglais peut encore avoir, enfin, a encore des effets plusieurs générations plus loin. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant à lire. À la fois, c'était à la fois... très personnel, très intime, mais très grand. Mais donc ça, j'ai l'impression que pour l'instant, on ne peut pas le faire en littérature jeunesse. Et si un jour, je sors de la littérature ado, je pense que ça sera pour faire ça. Ce sera pour suivre un personnage ou une famille sur une unité temporelle qui sera beaucoup plus longue. Ceci dit, pourquoi la littérature jeunesse m'intéresse? Il y a plein de raisons. Je me sens plus libre de faire, j'en sais rien, une histoire sur des loups-garous femelles, des loups-garous qui jouent au rugby dans l'espace.
J'ai hâte de le lire, je précise.
Mais non, mais j'ai toujours des idées comme ça qui mélangent des trucs qu'on mélange pas d'habitude. Et je me sens plus libre de le faire chez les ados. Et aussi, plus personnellement, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à mon adolescence. J'ai un peu de distance maintenant. Ça fait 10 ans que je suis plus une adolescente. Enfin, mettons, allez, je pense que j'étais adolescente jusqu'à 23 ans. Donc, ça fait 5 ans que je ne suis plus une adolescente. Et donc, j'ai assimilé des trucs et j'ai des choses à dire. Et je pense que cette distance m'aide. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent sur ce qui leur arrive en ce moment même. Mais moi, j'ai du mal ou j'ai l'impression de ne pas avoir assez de matière. Quoi. Et donc, je cherche toujours à écrire ce qu'on n'a pas osé dire ou ce qu'on a honte de partager. Ou vraiment les choses qui vont un peu dans l'abject, mais pas dans le sens négatif du mot, mais dans le sens secret. Et ça, bah, j'ai plus de choses à dire sur mon adolescence que sur ce qui se passerait maintenant, parce que c'est pas encore vraiment bien assimilé, quoi. Et donc, être aussi sincère, aussi vrai et juste que je le veux, je pense que pour l'instant, je peux le faire en littérature ado. En tout cas, jusque-là, je n'ai pu le faire qu'en littérature ado.
Eileen Mancho, pour illustrer tout ce qu'on est en train de se dire sur... les frontières de ce nouveau royaume d'édition qui est la littérature young adult. Je vous ai demandé de venir avec l'un de vos romans young adult de préférence. Vous êtes venu avec Maintenant c'est ma vie de l'américaine Meg Rozoff, publié en 2004, qui a été adapté au cinéma. C'est l'histoire d'une ado new-yorkaise qui part en vacances dans la campagne anglaise au moment où des attentats provoquent la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi c'est un modèle du genre pour vous ?
C'est vraiment un de mes romans préférés, parce que c'est, il illustre très bien ce que je disais sur la porosité des genres. Donc c'est effectivement, on a une troisième guerre mondiale, mais elle est très en retrait. Enfin, on comprend pas les enjeux et aboutissants parce qu'on la vit de l'intérieur. Donc on la comprend comme une adolescente qui est perdue dans l'Angleterre, coupée de tout et tout, en quarantaine à cause de cette guerre. Il y a une histoire d'amour qui est incroyablement charmante et en fait interdite parce qu'elle tombe amoureuse de son cousin qui est plus jeune qu'elle. Donc elle a 16 ans, il en a 14. Et en plus, c'est un peu magique parce qu'ils sont... On devient de plus en plus sûr que les cousins, ils sont télépathes entre eux, on sait pas exactement. Et puis ils ont des pouvoirs bizarres, il y en a une qui arrive à parler aux animaux, etc. Et c'est un grand roman d'aventure. Ils doivent fuir, ils doivent survivre dans cette guerre. Et donc ce mélange des genres, moi ça me hérisse les poils de bonheur, quoi. Je trouve ça vraiment incroyable. Et puis au-delà de ça, je trouve que c'est aussi un exemple une sorte d'idéal platonique de la voix des ados en littérature young adult. C'est-à-dire que c'est une voix à la première personne, à fleur de peau, hyper sensible, mais aussi très sarcastique, et qui dit les choses comme elles sont, quoi. Qui quand elle dit je t'aime, elle doit ajouter qu'elle a aussi d'énormes doutes et le monde va finir. Elle est jamais calme, quoi. Elle est toujours nerveuse et elle dit toujours 50 choses à la fois et elle a toujours 50 doutes. Je pense que de lire l'extrait, ça va mieux illustrer ce que je veux dire.
Okay.
Nova Book Box, c'est l'amour livre.
Il serait beaucoup plus facile de raconter cette histoire si ça parlait d'amour chaste et idéal entre deux enfants seuls contre le monde entier en temps de crise historique. Mais soyons francs, ce serait bidon. La vérité, c'est que la guerre n'avait pas grand-chose à voir là-dedans, sauf qu'elle nous a fourni un havre en dehors de tout, où deux gamins trop jeunes et trop proches parents pouvaient s'embrasser sans personne pour les en empêcher. Ni parents, ni profs, ni contraintes d'emploi du temps. On n'avait ni endroit où aller, ni truc à faire pour nous rappeler que normalement, ces choses-là n'arrivent pas dans le monde réel. De toute façon, il n'y avait plus de monde réel.
Extrait donc du roman « Maintenant, c'est ma vie » de Meg Rozoff, lu par Eileen Wanshaw.
It's winter in the heart of the Midwest, and some remarkable visitors have arrived. These are young elves. They can appear unexpectedly in places like this, and then just vanish.
Yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hey, draguer des meufs, oh moi c'est rare que j'ose. Négro, j'ai la pêche quand j'écoute des sons moroses. J'ai la classe au mic, je rêve de faire de grandes choses. Si tu vois, je me taille, c'est que c'est sur le point d'exploser. Yes, quand t'en rentres, tu sors, ça me semble logique, oh ouais. Y'a tous mes frères qui dansent, j'ai mis la zig, oh ouais. Est-ce qu'il faut que je passe à la télé pour que tu puisses enfin me calculer? C'est ce genre de questions que je me pose, des fois le blues me prend, ouais. Les larmes en amel coulées, ça me rend triste vraiment, ouais. Et je comprends pas pourquoi je suis aussi différent. J'ai mes proches qui m'aiment et je me sens seul pourtant, ouais. Les biches, la zeille, les caisses, tout ça ce n'est que du vent. Je fuck tous ces négros qui pensent que je suis perdant. Blasé, blasé, je le suis, oh ouais. J'ai dans le cœur la peine et je l'exprime, oh ouais. Yes.
Petite perle de spleen, ce blues post-ado chanté par le rappeur bruxellois Moka Boka en 2016, 21 ans à l'époque. Mon invitée d'aujourd'hui vient aussi de Bruxelles, elle a 27 ans et s'y connaît en tourments adolescents, c'est l'écrivaine Eileen Manchot.
Éline, vous n'avez pas fait d'études littéraires. Vous avez étudié à Centrale et travaillé un an en tant qu'ingénieure, en tant que consultante dans les télécoms, je crois, dans une start-up à Bruxelles. Mon Dieu. Mais quand vous avez compris que cette vie n'était pas pour vous, vous avez intégré pour 2 ans le master de création littéraire du Havre. Vous avez écrit vos 2 premiers romans. C'est d'ailleurs là que je vous ai rencontré, puisque j'étais juré des travaux de fin d'études l'année où vous avez présenté Ogresse. De quelle manière est-ce qu'on vous apprend à écrire là-bas? Qu'est-ce que vous avez appris concrètement, techniquement, sur le plan pratique et théorique?
Concrètement, j'ai eu un apprentissage d'assez près avec Clémentine Beauvais, qui était ma professeure référente. C'est-à-dire
Clémentine Beauvais, romancière, c'est l'autrice des Petites Reines ou de Songe à la douceur, qui est aussi chercheuse en sociologie et en psychologie enfantine.
Simplement, on m'a offert un endroit et un temps où je pouvais créer, avec entouré de gens qui prenaient au sérieux ce que je faisais, entouré d'autres apprentis qui prenaient aussi très au sérieux ce qu'ils faisaient, qui pouvaient me lire, que je pouvais lire, avec qui on pouvait discuter et parfois même se disputer très fort.
Ouais. Ouais,
c'est ça, se disputer très fort sur ce qu'on attendait de la littérature. Et ça, déjà, en fait, l'opposition, c'est très enrichissant parce que ça permet. Je me suis découvert des opinions, quoi. Parce qu'il y avait des choses que j'aurais défendu bec et ongle. Puis je me dis, mais enfin, je défends ça bec et ongle parce que ça me paraît être une évidence. Mais en fait, c'est pas une évidence pour tout le monde. Et en fait, c'est une opinion. Et donc, j'ai découvert que certaines de mes évidences étaient des opinions. Et c'est très bien, j'ai pas forcément changé d'opinion, mais on les comprend mieux alors quand on comprend que c'est des opinions. Et donc, j'ai travaillé aussi étroitement avec Clémentine Beauvais, notamment sur l'écriture d'Ogresse, donc où je lui envoyais. Donc j'ai écrit Ogresse en un an et je lui envoyais régulièrement les chapitres que j'avais et elle me renvoyait des pages à noter en me disant ça j'adore, là ça va pas pour le rythme. Et puis plus généralement, le fait d'avoir quelqu'un que j'admire autant me dire que oui, ce projet vaut le coup et c'est un bonheur de lecture et il faut que tu continues, il faut que tu termines. Il y avait un aspect de motivation et de sorte de mentorat qui était extrêmement précieux pour moi. Et aussi, on a beaucoup parlé de l'aspect réflexif de la démarche, donc de savoir me placer génériquement. C'est-à-dire de comprendre à quel genre appartenait le roman que j'écrivais et comment il se plaçait par rapport à cela, quoi. Et donc, une des choses qu'elle m'a apprise, Clémentine, c'est que quand on place un roman dans un genre, par exemple, si on le place dans un genre policier, donc s'il y a un détective au début, etc., les gens vont attendre certaines choses. Ils vont attendre que le détective suive des pistes, qu'il y ait quelqu'un qui paraisse être le coupable, qui en fait n'est pas le coupable. Ils vont attendre certaines conventions du genre. Et à ce moment-là, on peut un peu jouer avec eux. On peut soit leur donner ce qu'ils attendent, soit ne pas leur donner ce qu'ils attendent, ou leur donner ce qu'ils attendent, mais un peu différemment, ou changer leurs attentes. Mais on peut pas, on peut faire tout ça, mais on peut pas ignorer que ces attentes existent. Et donc, de prendre en compte ces attentes-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec elle et avec lequel j'ai joué aussi sur Ogresse, parce que Ogresse commence vraiment comme un roman de chronique adolescente normale, quoi, avec une fille qui va au lycée, qui est amoureuse de son meilleur ami, qui se sent pas bien, ses parents viennent de divorcer, etc. Et donc, j'ai joué avec ces attentes-là. Et comme tu dis aussi, j'ai joué avec les passages obligés, comme la perte de la virginité, etc. J'en ai fait des choses différentes. Mais j'aurais pas pu faire ça si je me disais je fais quelque chose d'entièrement neuf qui se repose sur rien, etc. Non, il fallait que je puisse placer ce roman dans une grande galaxie d'autres romans avec des éléments semblables et des choses que j'ai empruntées ou volées et des choses que j'ai changées, quoi, que j'ai mis à ma sauce.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Écoutez, je suis sur la plage. Il y a quelques minutes encore, j'étais dans l'eau. Comment l'expliquer ? Il semble que la mer, la marée, soudain, s'est inversée. Les bateaux au large sont pris dans les courants. Les marins, on ne peut pas les ramener. Les gardes-côtes viennent d'arriver. Ils nous demandent de rester calmes, ne pas céder à la panique. Ils disent il ne faut plus naviguer, nager, se mettre à l'eau sous aucun prétexte.
Je vous le rappelle, chères auditrices, personne ne sait ce qui se passe. Chers auditeurs, personne ne le sait. Restez avec nous.
Nova Book Box, sous les couvertures, des personnages au poil.
Votre premier roman, intitulé La Dernière Marée, publié l'année dernière aux éditions Talent Haut, imaginait un reflux. Dans une cité balnéaire, la mer disparaît. Et c'est la panique, des bateaux sont partis avec l'eau aspirée, des nageurs aussi. Et dans les deux romans, dans celui-ci et dans Ogresse, eh bien le premier chapitre démarre avec une héroïne dont le cœur bat trop fort. Est-ce que deux fois de suite, c'est pas un cliché du genre vous auriez pu vous passer ?
C'est tout à fait un cliché du genre, et t'es le seul à avoir remarqué, mais je m'en suis rendu compte quand j'étais en train de retravailler La Dernière Marée pour publication, et que j'étais en parallèle en train d'écrire pour la première fois Ogresse. Donc, désolé. Mais oui, c'est un cliché. Et pourquoi c'est là ? Parce qu'en fait, moi, je suis une personne qui a des problèmes d'anxiété médicale. Enfin, je suis suivie médicalement. Et donc, c'était une de mes obsessions, c'est ça. Et c'est une obsession que Hippolyte a dans le bouquin. Et j'ai pu l'écrire parce que c'est un peu passé. Maintenant, ça va mieux. Mais elle a cette obsession du bruit de son cœur. Elle arrive pas à ne pas entendre le bruit de son cœur au point qu'elle a l'impression d'avoir un truc cardiaque, quoi, d'avoir un problème cardiaque, et en fait c'est pas le cas, elle est juste anxieuse, quoi. Et moi c'était quelque chose qui m'était vraiment arrivé de pas pouvoir dormir parce que j'entendais trop fort le bruit de mon cœur. Et simplement, quand j'ai écrit ces deux romans, c'est toujours cette tragédie qu'on peut pas voir les choses avec un autre regard que le sien, et donc pour moi c'est normal d'avoir le cœur qui bat trop fort, et donc c'était normal pour mes héroïnes aussi. Donc maintenant c'est un peu passé et je me suis rendu compte de ce pensif là je pense que je l'ai exploité au max dans Ogresse, donc j'arrête d'avoir des héroïnes qui ont le cœur qui bat trop fort. Mais bien vu, t'es le premier à me le faire remarquer.
La cité balnéaire qui vous a inspiré le décor de La Dernière Marée, c'est, je crois, en grande partie une petite ville de Turquie où vit votre grand-mère sur la côte Égéenne. Est-ce que vous pourriez nous la décrire ? Comment s'appelle cet endroit ?
Alors, c'est même pas une ville. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle CSK Citesi, ce qui veut dire... En turc, les cités des assurances, parce que l'histoire est marrante, c'est...
Les cités des assurances.
Parce qu'en fait, CSK, c'est un assureur qui offrait comme cadeau, je ne sais plus exactement quelle est l'histoire, mais comme cadeau de fidélité ou comme cadeau de départ à la retraite à ses employés, des appartements à la mer. Et donc, ils avaient construit tout un complexe d'appartements qui est en fait très beau, toute proportion gardée, mais très jolie en fait. C'est des grands complexes d'appartements, une sorte de building, mais bien espacé, avec des jardins entre et qui sont littéralement à 100 mètres de la plage. On voit la plage, on voit la mer depuis la terrasse. Et ma grand-mère habite là, pas parce qu'elle travaille dans les assurances, mais parce qu'elle a acheté cet appartement. Donc finalement, ces appartements se sont éparpillés par vente et rachat. Et moi, j'ai passé mes étés là-bas, en fait. Toute mon enfance, je passais mes étés à la mer et j'avais vraiment des cauchemars où je devais courir pour échapper à une énorme vague et je me prenais les pieds dans le sable. C'est tout des trucs, ça vient de moi. Et donc c'est pareil, c'était un terreau fertile que je pouvais exploiter pour avoir toutes ces images liées à la mer, etc. Et puis, bon, il n'y a pas que ces endroits-là, il y a tous les endroits où je suis allée à la mer, donc la mer du Nord en Belgique, la Zélande aux Pays-Bas, la Bretagne, etc., avec les rochers.
À propos de ce bord de mer turque, une fois vous m'aviez dit qu'il y a là-bas un bras de mer, un détroit, que vous verriez bien traverser à la nage pour un livre, comme la mère de l'héroïne de La Dernière Marée d'ailleurs. Est-ce que vous y pensez toujours ?
Ouais, j'aimerais bien. Mais après, c'est pas très dur, hein, je veux dire, c'est 2,5 km au maximum, c'est pas tant que ça. Mais je sais pas si c'est permis ou s'il n'y a pas des courants. Je me suis toujours pas vraiment renseignée. Par contre, je me suis inscrite dans un club de natation, donc j'ai fait un mouvement de crawl plutôt vers ce projet, et je progresse assez vite. Donc on verra si un jour je suis suffisamment forte.
Sur quoi vous travaillez en ce moment ?
Je travaille sur un roman ado qui parle de découverte de l'amour et du sexe et des amitiés. Donc un peu ce que j'ai fait jusque-là, mais encore plus. Et qui se passe dans un internat, et l'internat est hanté, et il se passe des choses.
Internat est hanté ?
Hanté, oui, par un fantôme.
Ok.
Voilà, je peux pas vraiment dire plus.
Dernière question, je crois que votre père vous a appris le turc.
Oui.
Vous lisez des livres en turc ?
Non, mais je devrais m'y mettre. C'est un de mes projets pour 2020, c'est de me dérouiller un peu la grammaire et de me mettre plus activement à lire en turc.
Est-ce que vous pourriez dire... au revoir, bon dimanche, bon après-midi à nos auditeurs et auditrices en turc.
İyi günler ve iyi pazarlar.
Merci beaucoup, Elin Manço. À bientôt.
À bientôt.
Comment faire pour garder le fil ? Garder le bon, jeter le pire. Parler sans combler nos silences. De ce qu'on oublie de se dire.
tête apeurée. Je suis qu'un homme donc je suis qu'un animal. Les belles paroles je veux pas y croire. J'ai trop souvent fini par me leurrer. J'écris ce texte j'arrête pas de gommer. Pour recevoir comment se pardonner. Pourquoi je suis heureux quand j'agis mal. Pourquoi c'est si dur de pardonner. Face au paraître on se barricade. Raison d'en profondeur abyssale. Je pense au jour où je quitterai la capitale. La conscience propre et les abyssales. Partons loin des hommes des palissades. Des murs, des grillages et des barbelés. Avant que j'enjambe la balustrade. Ou que la balle quitte le barrier.
Comment faire pour garder le fil.
Échappé du groupe belge L'Or du Commun, le bruxellois Swing a dévoilé début février son nouvel EP en solo, Alt F4, c'est son titre, du nom de la combinaison de touches utilisée pour fermer une fenêtre sous PC et, dans le cadre d'un jeu, pour abandonner la partie. Il s'agit ici pour lui d'opérer une rupture et d'aller de l'avant, départ progressif du rap vers la chanson, comme avec S'en aller, somptueuse balade nocturne faite de questionnements, de piano et de soul. Le registre est fragile, mais la mélodie puissante, et on y croise Angèle, dont Swing assura les premières parties à la production Dune et Crayon, le duo derrière les titres les plus sensuels du moment. Merci à notre programmateur Michael Liot pour ses précisions. Il est temps aussi pour nous de s'en aller. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabeau, merci à lui. Et n'oubliez pas, chères auditrices, chers auditeurs, à qui je dis bon dimanche, comme l'a dit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.